France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans 8h30 Politique, comme chaque semaine, à la même heure, sur France Info, Radio et Télé, avec Jannick Halimi. Bonjour Jannick.
Bonjour Mathéo.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Je vous laisse, comme chaque semaine, poser la première question à notre invité, Damien Abad, député de l'Ain et vice-président des Républicains.
Damien Abad, bonjour.
Bonjour.
Alors la journée va être riche aujourd'hui puisqu'elle commence par la réunion du Conseil national des Républicains qui a notamment pour mission de désigner les nouvelles instances, le nouvel organigramme des Républicains depuis que Laurent Wauquiez est à sa tête. Ce n'est pas un secret, l'ambiance est extrêmement tendu. Vous l'avez bien voulu, non ? Laurent Wauquiez l'a cherché, non ?
Non, ça va être un Conseil national surtout d'espoir pour la droite.
Allons
d'espoir
bon.
Pour une droite à la fois plus juste, plus audacieuse et plus apaisée. Aujourd'hui, il va y avoir des nominations.
Ce qui n'est pas le cas.
Il y a forcément toujours des moments de tension quand il y a des nominations, des désignations à une commission d'investiture ou un bureau politique. C'est la vie démocratique d'un parti politique. Mais vous avez remarqué chez nous, Républicains, que les choses sont démocratiques. Le président est élu par les militants et le bureau politique et la commission d'investiture sont validés par le Conseil national qui est le Parlement du parti. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver ce matin à huis clos pour définir cela. Et cet après-midi, il y aura des interventions, et notamment le discours de Laurent Wauquiez.
Alors, Maëlle de Calon et Florence Portelli, qui étaient les adversaires de Laurent Wauquiez hein, pour la présidence du parti, ont tenu une conférence de presse jeudi. Elle ne vous a évidemment pas échappé. On écoute ce qu'a dit notamment Florence Portelli, et je vous pose la question ensuite.
Si on a envie de mépriser ceux qui ne pensent pas comme vous, ben moi je suis désolée, j'ai pas ma place dans un parti stalinien. Je suis chez les Républicains, j'étais avant à l'UMP, j'étais avant au RPR, c'était pas stalinien. Là, si Laurent Wauquiez est le premier stalinien de l'histoire de la droite, et ben ce sera sans moi, je pense sans nous.
Damien Abad, il y a deux choses dans cet extrait. Il y a le terme stalinien qui est plusieurs fois répété, qui n'est évidemment pas anodin, mais sur le fond, on s'est beaucoup posé la question lors de l'élection de Laurent Wauquiez, s'il y allait avoir plusieurs tendances, plusieurs lignes politiques qui pouvaient cohabiter. Est-ce que finalement ce débat ne doit pas exister ? Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui ? On a l'impression que non, d'après ce qu'ils disent. Ils s'estiment sous-représentés dans les instances.
Deux remarques. D'abord, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et je crois que même Maëlle de Calon est gênée par les propos tenus par Florence Portelli, qui renvoie quand même à une période de l'histoire tragique. Ensuite, en ce qui concerne le fond, bien sûr que toutes les sensibilités sont représentées. J'incarne moi-même cette droite humaniste, modérée et sociale, qui n'est pas forcément celle qui incarne d'autres vice-président ou d'autres dans ce parti politique. Et donc, la volonté de Laurent Wauquiez, c'est le pluralisme des idées et la diversité des sensibilités. Il veut faire en sorte que les Républicains redeviennent un lieu de débat. Parce que la vérité, c'est que les Républicains n'étaient plus un lieu de débat. Il n'y avait plus de débat parce qu'il n'y avait plus de chef, il n'y avait plus de leader. Et donc, aujourd'hui, il y aura pour la première fois le Parlement du parti qui va débattre à huis clos, échanger sur tous les sujets.
Damien Abad, juste quand même une dernière question sur l'organigramme en lui-même. Est-ce que le débat aura lieu dans les représentations les plus hautes du parti ? Est-ce que, par exemple, Florence Portelli ou Maëlle de Calon peuvent espérer avoir des postes de vice-président ou de vice-présidente, par exemple, cet après-midi, lorsque les nominations auront lieu ?
Laurent Wauquiez a fait des propositions. Il a proposé à Maëlle de Calon et Florence Portelli d'être membres du bureau politique et de la commission d'investissement. Vous savez, la négociation, c'est un échange, il y a un point de départ, un point d'arrivée. Et il faut accepter que le point d'arrivée ne soit pas forcément celui du point de départ. Sinon, c'est plus une négociation, c'est une case. Et que donc, la réalité aujourd'hui, c'est que la diversité des opinions sera respectée, c'est qu'il y aura différentes sensibilités. D'ailleurs, l'équipe dirigeante, qui je rappelle, dont la moyenne d'âge est de 43 ans, représente cette diversité des sensibilités politiques. Donc, c'est un faux procès que l'on fait à Laurent Wauquiez que de dire qu'on veut mettre le parti sous coupe, alors qu'au contraire, c'est la volonté de recréer le débat dans notre famille politique.
Oui, mais sans aller peut-être jusqu'au terme assez extrême de Florence Portelli, Laurent Wauquiez veut incarner tout de même une ligne radicale, bien déterminée, qui va à l'opposé de l'ancienne UMP et donc de la représentation et de l'écoute de toutes les sensibilités que peut ou pouvait représenter la droite jusque-là. Donc même dans vos propos, il y a une antinomie.
Non, parce que Laurent Wauquiez veut incarner une droite qui assume ses convictions, qui soit solide dans ses convictions.
Oui, justement.
Il veut, oui, mais il a raison. Il faut que la droite au pouvoir ressemble à la droite en campagne. Qu'est-ce que nous ont reproché les Français? C'est qu'on avait souvent le verbe haut, mais l'action faible. Et que donc, on doit retrouver cette volonté d'agir et de faire, de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Et je pense que c'est louable en démocratie.
Vous parlez d'une moyenne d'âge autour de 40 ans, donc il y aurait un renouvellement, on l'a bien compris, des instances et de la manière de faire de la politique. Mais tout de même, par rapport à l'origine du parti, à son histoire, à l'histoire de ses idées, quand Alain Juppé dit qu'il va prendre ses distances et que Nadine Morano répond que finalement il est un peu en fin de course, en fin de cycle politique, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme un petit peu d'inélégance par rapport à ce qu'a pu faire ce parti justement ?
Écoutez, je suis vice-président des Républicains, j'ai beaucoup de respect pour Alain Juppé, et moi je ne dis pas qu'il est en fin de course, je dis simplement qu'il a fait le choix de prendre la distance par rapport à son parti, pas de le quitter, mais comme vous l'avez dit, de prendre des distances, sur une question très simple qui est la question des européennes. Mais moi je dis à Alain Juppé, chiche, parce que sur les élections européennes, on va démontrer que les Républicains ont une fibre européenne, et on va démontrer que l'avenir de l'Europe, c'est pas le fédéralisme échevelé prôné par Emmanuel Macron, c'est une Europe au concret, une Europe des projets, une Europe qui défend les intérêts des Français et de l'ensemble des pays, des peuples européens.
Puisque vous parlez de l'Europe, est-ce que d'ici aux élections européennes, qui vont avoir lieu dans un an et demi, est-ce que vous vous attendez à d'autres prises de distance, voire de sortie, d'abandon, de départ des républicains, oui, vers d'autres partis, pas obligatoirement La République En Marche, mais en tout cas vers des fuites du Parti Républicain à l'occasion des européennes.
Une sorte de Brexit, en fait.
Voilà, oui, exactement.
Nous, vous savez, le train aujourd'hui, il est en route. Et il y a ceux qui sont montés dans le train et il y a ceux qui sont restés à quai.
Vous n'avez pas dit en marche, vous avez dit en route, on précise.
Oui, vous avez fait exprès.
Il y a ceux qui peuvent descendre du train en marche.
Mais le train, il ne s'arrêtera pas.
D'accord.
Et c'est ça la force. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre. Laurent Wauquiez a toujours tendu la main. Il a toujours dit, moi, je suis pour le fait que tout le monde puisse se retrouver dans notre parti politique. Mais on ne peut pas attendre matin, midi et soir des gens qui finalement ont fait leur stratégie politique que de quitter notre mouvement. Et moi, je dis simplement, on préfère que les talents s'expriment à l'intérieur de notre famille politique et pas à l'extérieur.
Alors, Damien Abad, on fait aussi une partie, d'ailleurs, des gens des Républicains et de la droite, un procès, encore une fois, de radicalisation et de tentation vers les idées du Front National pour Laurent Wauquiez. Est-ce que pour vous, qui venez du centre, du parti centriste, est-ce que pour vous, il y a des lignes rouges que ne doit pas franchir Laurent Wauquiez vers des tentations, peut-être, d'aller encore plus à droite qu'il ne l'est?
Mais c'est une ligne rouge que Laurent Wauquiez lui-même a réaffirmée lors de l'émission politique. Il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National, jamais d'alliance avec Marine Le Pen, ni de près, ni de loin, parce que ce parti, il vit de la souffrance des Français, parce que ce parti, il a été décrédibilisé compte tenu de ce qu'on a raconté, notamment sur l'Europe, et parce que la volonté de la droite aujourd'hui, c'est de parler de tous les sujets,
justement,
y compris ceux qui fâchent.
On a d'autres sujets à évoquer. On va parler de la personnalité de Laurent Wauquiez, justement, et de son passage jeudi dans l'émission politique de France 2. Restez avec nous sur France Info à 8h40. C'est l'info, David Doba.
Et les suites de l'affaire Lactalis, 3600 nouveaux contrôles réalisés par la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes depuis le 12 janvier dernier. L'objectif était simple, s'assurer que les produits sur le site de Cran n'étaient plus dans le commerce, mais au final, 22 établissements, parmi lesquels 13 pharmacies, continuaient de les vendre. Le niveau de la Seine à 5,70 m ce matin, à hauteur du pont d'Austerlitz. Elle devrait d'ailleurs encore gagner une trentaine de centimètres d'ici demain matin. En Seine-et-Marne, 8 communes sont touchées par des restrictions d'usage de l'eau potable. 15 départements au total sont en vigilance orange pour crues et inondations. Troisième journée d'audience du procès de Jawad Ben Daoud hier devant la 16e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Celui que l'on surnomme le logeur de Daesh a continué de faire son show, s'en prenant notamment aux avocats de la défense. Il reste sur sa ligne de conduite. Il ne savait pas que ses locataires étaient des terroristes. L'offensive de l'armée turque contre une milice kurde dans le nord de la Syrie entre désormais dans sa deuxième semaine. Recep Tayyip Erdogan promet d'ailleurs de l'intensifier. Une opération qui renforce un peu plus, s'il le fallait, les tensions avec Washington. Des manifestations pro-kurdes sont prévues aujourd'hui en Allemagne, mais également en France, à Marseille ou à Paris.
France Info. 8h30 politique, toujours en compagnie de Jeannick Halimi sur France Info, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Aujourd'hui en France, et de notre invité Damien Abad, député de l'Ain, vice-président des Républicains. Jeudi soir, vous étiez déjà à Paris pour l'émission politique sur France 2 à laquelle vous avez assisté. Laurent Wauquiez était l'invité. Il a notamment dit ça. On écoute.
Oui, c'est vrai, c'est ma caractéristique. J'ai tendance à dire les choses. J'ai tendance à le dire de façon un peu trop directe. Je suis venu sur votre plateau pour défendre les convictions et les valeurs qui sont les miennes. C'est pour moi beaucoup plus important que d'essayer de faire en sorte de préserver toutes les pièces du puzzle.
Il y avait 1,5 million de téléspectateurs devant cette émission, ce qui est la pire audience de l'histoire de l'émission, et il faut le rappeler. Et selon notre sondage Odoxa d'Ensu Consulting pour France Info, près de 6 personnes interrogées sur 10, donc près de 60%, jugent Laurent Wauquiez, je cite, ni compétent, ni honnête, ni sympathique. Par rapport à ces faits et à ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il n'a pas, à votre avis, un problème d'image à régler encore ?
D'abord, l'examen de passage de cette émission politique a été réussi et je pense unanimement salué. On a vu un Laurent Wauquiez solide, concret, qui parlait directement en français et qui assumait ses convictions. Ensuite, le sondage de sortie d'émission montre qu'une majorité de Français a adhéré finalement à sa démarche. Donc vous avez raison, au départ l'image n'était peut-être pas forcément celle qui était la plus positive, c'est vrai, mais on le voit après explication et lorsque les Français ont découvert Laurent Wauquiez, eh bien ils ont une image positive de lui. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui Laurent Wauquiez n'est pas encore un déficit de notoriété par rapport à un président de la République ou un Premier ministre, et donc forcément il y a des chiffres d'audience moins importants. Mais la réalité, c'est que plus il sera connu et plus il sera populaire, et plus ces Français adhéreront à son discours. Et l'émission nous l'a prouvé jeudi soir.
Pour rebondir sur ce que disait Yannick, pardon, mais la proximité de certaines de ces idées avec celles qu'on pouvait auparavant attribuer à l'extrême droite, c'est pas un repoussoir selon vous pour une partie de l'opinion ?
Non, parce que dire que quand les titres de séjour augmentent de 14% de notre pays, qu'il y a 260 000 titres de séjour qui sont accordés et que cette immigration ne correspond plus à la réalité de notre situation économique et à la capacité de la France de satisfaire notre modèle d'intégration, eh bien, Laurent Wauquiez a raison. Et les Français approuvent cela. Les Français, ils demandent quoi ? Ils demandent qu'on soit juste sur le plan économique et social et que donc la droite sorte du dogme du sang et des larmes pour donner une espérance nouvelle. Et ils demandent qu'on soit ferme sur le plan régalien et sur le plan de la sécurité. Et je pense que le Front National, comme l'a dit Laurent Wauquiez, n'a pas le monopole de l'immigration. Et c'est quelque chose de très important parce qu'on doit pouvoir parler de tous les sujets avec justesse et avec justice.
Pendant cette émission, Damien Abad, Laurent Wauquiez a été face au porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, et il a surpris parce qu'il a attaqué le gouvernement par sa gauche, si je puis dire, en critiquant violemment la politique, non pas de droite, mais en tout cas inégalitaire, générée par notamment la loi de finances que vient de voter le Parlement. Est-ce que ça, c'est une ligne sur laquelle veut camper Laurent Wauquiez, une ligne en faveur des classes modestes, en faveur des populations les plus modestes et comme ça peut-être chasser sur les terres du Front National, qui sont les siennes également ?
Parler aux classes modestes, c'est pas chasser sur les terres du Front National. Parler aux classes modestes, c'est parler à tous les Français. C'est vrai que quand vous avez des baisses d'impôts qui concernent 4% des Français les plus riches, on a le droit de s'interroger. Parce que quand, dans le même temps...
Oui, mais venant de la part d'un représentant des Républicains, c'est bien, peut-être de donner
non,
des
parce
leçons
que, non, parce que
de façon un peu fallacieuse.
Mais la droite a le devoir même d'incarner une justice sociale et une justice fiscale. La réalité, c'est quand il y a 23 milliards d'euros d'impôts supplémentaires avec la hausse de la CSG qui va toucher tout le monde, les étudiants, les retraités, les agriculteurs, les salariés.
On sait que la droite préfère effectivement la hausse de la TVA.
La droite préfère surtout, la droite nouvelle façon Laurent Wauquiez préfère surtout la baisse des impôts. Il faut qu'on assume à droite un discours économique de baisse des impôts. Ce discours, il sera possible qu'à une condition, c'est qu'on mette fin au gaspillage d'argent public. Et pourquoi le président de la République aujourd'hui va augmenter les impôts ? Parce qu'il n'a fait aucun effort sur la dépense publique. Et que donc, quand on fait aucun effort sur la dépense publique, quand on a 2000 milliards d'euros de dette dans ce pays, forcément, on est obligé de recourir à l'impôt et encore une fois de s'attaquer au pouvoir d'achat des Français. Eh bien, c'est la responsabilité de la droite et du mouvement Les Républicains que de faire de cette bataille fiscale une des grandes batailles du quinquennat.
Alors, une question qui concerne la droite également, ça fait un an presque jour pour jour que l'affaire Fillon, comme on l'a appelé, a éclaté d'abord dans la presse. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre est candidat, parce qu'il était votre candidat à la présidentielle, est toujours mis en examen, ainsi que son épouse. Quel regard vous portez sur cette année écoulée et est-ce que personnellement vous regrettez de l'avoir soutenu jusqu'au bout ?
Non, je ne regrette
pas. Il a pris ses distances avec la politique,
oui,
on le rappelle.
Je ne regrette pas parce que c'était celui qui a été choisi lors des primaires. Ce n'est pas le candidat que j'ai soutenu, mais c'est le candidat qui a été choisi. Et moi, je suis quelqu'un de loyal à ma famille politique. Simplement, sur la question importante, c'est une année noire pour la droite. Il ne faut pas se le cacher. C'est une double défaite aux législatives, aux présidentielles, sur une élection qui nous était promise. C'est pour ça qu'il faut tout changer. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle droite. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle génération
Laurent
politique.
Laurent Wauquiez était ministre il y a 10 ans, hein, oui, secrétaire d'État.
Oui, il y a 10 ans, il a été secrétaire d'État. Mm. Sauf qu'aujourd'hui, Laurent Wauquiez, le seul endroit où il a été en responsabilité, c'est au niveau local, au Puy-en-Velay et à la région. Et je pense qu'il a fait la preuve de son efficacité, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui est la région la mieux gérée de France. Et donc, ce que nous faisons à la région, nous devons le faire au niveau national. Donc, il faut cette nouvelle droite. Il faut tirer les leçons des échecs et du passé. Il faut tirer les leçons de cette droite puzzle qui s'est éparpillée, d'une droite qui était divisée, d'une droite qui parfois était la plus bête du monde. Eh bien, à nous de retrouver aujourd'hui des couleurs et à nous de recréer un espoir pour les Français.
Votre modèle, finalement, de parti en Europe, ce serait quoi ? Le parti conservateur anglais, la CDU, la CSU, qui est un parti extrêmement conservateur en Allemagne, plus que la CDU, ou l'UKIP, qui est carrément pratiquement à l'extrême droite, et en tout cas pour le Brexit. Vers quel type de parti de droite vous dirigez ?
Non, d'abord, pour nous, s'il y avait un dans ceux que vous avez cités, il y en a beaucoup qui ne nous correspondent pas. Celui qui nous correspondrait le mieux, ce serait la CDU. Mais au-delà de cela, c'est surtout le Parti populaire européen. Et les Républicains veulent être, je dirais, le bras armé du Parti populaire au niveau européen. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, le PPE, comme on dit, a la majorité au Parlement européen. C'est aussi celui qui a la majorité à la Commission européenne. Et que si on veut changer l'Europe de l'intérieur, seuls les Républicains seront en capacité de le faire parce que le PPE est le premier parti européen. Mais au-delà de cela, le parti que nous voulons faire, ce n'est pas un parti rabougri, ce n'est pas un petit parti, c'est au contraire un parti qui soit ouvert, qui permette de créer une alternance et une alternative à Emmanuel Macron.
Vous parliez de la double défaite aux législatives et à la présidentielle, mais vous êtes quand même le premier parti d'opposition en termes de nombre de députés, vous êtes vous-même à l'Assemblée nationale, donc vous avez à vous opposer parfois à ce que propose ce que fait voter le gouvernement. En ce moment, il y a un conflit depuis 12 jours entre l'exécutif, enfin entre le gouvernement, la ministère de la Justice et les prisons, les surveillants de prison. Le ministère a l'espoir que ça se débloque avec la signature par un syndicat d'un protocole d'accord hier soir. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement gère bien ce conflit ?
Non, je crois que c'est l'un des premiers...
Et qu'est-ce que vous proposeriez ?
Pardon. C'est l'un des premiers dossiers où on voit bien que la gestion politique de ce dossier est un échec. Pourquoi ? Parce que l'autorité de l'État est bafouée. Parce que la ministre de la Justice n'a pas pris conscience des enjeux qu'il y avait et la
Pourquoi
situation.
Pourquoi vous dites que l'autorité de l'État est bafouée?
Parce qu'aujourd'hui,
il y a eu des négociations. Et ben, apparemment, on sort de cette crise. Je dis bien apparemment. Pourquoi l'autorité de l'État est bafouée?
Enfin, on sort de cette crise. Moi, je demande à voir parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce que la sécurité et l'ordre n'est plus assuré dans nos prisons. Il y a une surpopulation carcérale. Et quand je vois le gouvernement faire comme première mesure installer des téléphones pour les prisonniers qui coûtent 50 millions d'euros, je dis qu'il est dans l'erreur. Parce qu'aujourd'hui,
il propose de créer tout de même 15 000 places de prison nouvelles.
Eh bien, pour le moment, on n'en a pas vu venir. Et
attendez,
la réalité, c'est qu'il faut... Il faut que cette mesure soit mise en place tout de suite parce qu'il y a deux choses à faire. La surpopulation carcérale et la question des détenus radicalisés qui est un enjeu de sécurité très important.
Ben voilà, c'était rapide. Merci beaucoup, Damien Abad. Vous restez avec nous parce que dans un instant, on va parler d'un autre dossier chaud du moment qui est la réforme constitutionnelle qui vous concerne également au premier chef. 8h50 sur France Info, l'info avec David Doba.
Et millimètre après millimètre, les autorités continuent de scruter le niveau de la Seine. Le pic de la crue est attendu pour demain matin, entre 5,80 m et 6 m, nous dit Vigicru. Niveau qui restera donc inférieur à celui de juin dernier, mais il n'y a pas que la Seine qui est sous surveillance, c'est également le cas de la Saône ou encore de la Meuse. Les syndicats de personnel pénitentiaire en ordre dispersé désormais, puisque contrairement à Force Ouvrière et à la CGT, l'UFAP-UNSA majoritaire chez les gardiens de prison accepte les propositions faites par Nicole Belloubet, la chancellerie qui promet d'ailleurs une application rapide du nouveau plan. On connaîtra normalement à 17h la liste des candidats autorisés à concourir pour prendre la tête du PS. 4 hommes, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Morel, et une femme, Delphine Bateau, devraient pouvoir déposer leur dossier. Un conseil national se tient à la Maison de la Chimiste à partir de 14h. Et puis une très grosse déception, hier soir, l'équipe de France de hand échoue aux portes de la finale de l'Euro. Les champions du monde en titre devront se contenter au mieux d'une petite 3e place, battue donc par l'Espagne 27-23. L'Espagne qui affrontera la Suède en finale.
France Info.
8h30 politique sur France Info, toujours avec notre invité Damien Abad, député de l'Ain, vice-président des Républicains, et Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France.
Oui, Damien Abad, une des réformes les plus importantes peut-être de ce quinquennat et une des plus sensibles aussi va être présentée prochainement au Conseil d'État et au Conseil des ministres. Je veux parler de la réforme constitutionnelle. On va laisser François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, s'exprimer immédiatement.
Cela nous ferait passer de 577 à environ 400.
Oui. Vous voyez,
c'est du jamais vu. On aura un Parlement plus fort parce que chaque député et l'Assemblée nationale aura plus de moyens pour travailler sans augmenter le budget consacré au Parlement.
Alors Damien Abad, sans rentrer dans les modalités de cette réforme, les modalités possibles, sur le principe même, le concept même de cette réforme qui consiste tout de même à muscler, à donner plus de représentativité, de légitimité, voire de pouvoir de contrôle à l'Assemblée nationale et d'ailleurs au Sénat, est-ce que vous êtes favorable à ce principe? Est-ce que vous en soutenez le concept?
Moi je souhaite que l'on renforce les droits du Parlement. Je ne veux pas que cette réforme constitutionnelle soit un artifice de communication supplémentaire. Et quand on veut mieux encadrer ou diminuer le droit d'amendement des députés, c'est pas un moyen de renforcer les droits du Parlement. Et donc Gérard Larcher a raison de mettre un certain nombre de lignes rouges.
Le président du Sénat.
Oui, tout à fait. Et pour nous, il y a trois lignes rouges. La première, c'est l'ancrage du député sur le territoire. Et le lien du député avec le territoire, c'est un lien fondamental, surtout au moment
donc
où il y a une défiance.
Donc garder la circonscription du département plutôt que de l'élargir, c'est ça?
Ça, c'est une certitude. Ensuite, il y a la question de la dose de proportionnelle. Parce que si vous faites une proportionnelle, comme M. de Rugy veut, à 30%, c'est le système allemand. Ça veut dire que pendant 2 mois, 3 mois ou 4 mois, vous n'aurez pas de gouvernement dans ce pays et vous aurez un système de coalition.
Là, il y a une marge de négociation, vous seriez plutôt pour 10%, en tout cas pas contre le principe.
Pas contre le principe, mais sur une dose minimale, parce que sinon, au-delà de 10%, c'est les équilibres des institutions de la Ve République qui seront bousculés.
Très
bien. Il faut bien préserver cette majorité.
Et votre troisième ligne rouge?
Et la troisième ligne rouge, pour nous aussi, qui est tout à fait, je dirais, fondamentale et centrale, au-delà de la dose proportionnelle et au-delà de l'ancrage des députés, pas que des députés, mais aussi des parlementaires. Sur notre territoire, c'est aussi le fait que le droit du Parlement soit renforcé. Et donc, nous disons qu'il faudrait, par exemple, supprimer l'article 40, qui permet de faire des amendements plus forts pour les députés. Nous disons qu'il faudrait ouvrir les questions au gouvernement pour avoir des droits de réplique ou autre. Et surtout, ne pas affaiblir la représentation du Parlement. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que le président de la République, il a vu les députés frondeurs. Et donc, il veut faire des députés godillots à la botte du pouvoir.
Non, il veut les faire plus efficaces. Voilà, leur donner plus de moyens en diminuant leur nombre. Il n'est pas question dans la réforme de faire du Parlement un Parlement godillot.
Sauf que quand vous faites une dose de proportionnelle, quand vous faites des grandes circonscriptions, ça veut dire que vous avez
plus de représentativité.
Oui, mais ça veut dire que vous avez des députés qui sont élus uniquement par le parti et qui sont liés directement au président de la République.
Damien Abad, le président du Sénat, Gérard Larcher, dont vous parlez, disait être plutôt défavorable à un référendum. Comme on le sait, cette réforme peut être votée soit par les 3/5 des parlementaires, soit par un référendum, pour faire court. Vous, quelle est votre position? Vous pensez qu'il y a une marge de négociation encore avec les députés, les sénateurs, pour pouvoir passer par le vote du Congrès, ou est-ce que vous êtes favorable plutôt à un référendum?
D'abord, la petite musique sur le référendum sera compliquée à mettre en œuvre. On voit bien que c'est un moyen de pression mis sur les parlementaires.
Donc vous êtes défavorable au principe du référendum.
C'est pas que nous sommes défavorables, je dis simplement que le gouvernement et le président de la République, les choses ne seront pas si simples qu'ils le disent. Simplement, nous disons, on ne sera pas facteur bloquant.
D'accord.
Mais on veut une réforme constitutionnelle qui soit une vraie réforme constitutionnelle, avec les lignes rouges que je viens de vous présenter ce matin. Parce que la réalité, c'est que si c'est un artifice de communication, comme on a vu le président de la République l'année dernière à Versailles, ça sera sans nous.
Hier ont officiellement débuté, et pour plusieurs mois, on parle évidemment de l'actualité politique et parlementaire, les débats sur la révision des lois de bioéthique. Ça va durer un certain moment parce que les acteurs veulent se laisser le temps. Et ces débats doivent notamment évoquer la fin de vie ou encore la PMA, procréation médicalement assistée, et son ouverture possible aux femmes célibataires et couples de femmes. Quelle est la position des Républicains sur le sujet? Est-ce qu'il n'y a qu'une position? Est-ce qu'elle est ferme et partagée par tous?
Je crois que Laurent Wauquiez a précisé cette position lors de l'émission politique, et notamment la question de la PMA et le fait qu'on soit sur une adoption simple et pas sur une adoption plénière. Simplement, il y a des interrogations, parce que la société, elle évolue. Et moi-même, d'ailleurs, sur ces sujets-là, j'ai un certain nombre de doutes et d'interrogations sur la question de la PMA. Comme sur la question de la fin de vie, moi, ce que je souhaite, c'est que la droite ne soit plus forcément toujours sur la défensive. mais alors on a souvent été sur la défensive sur des sujets de cette société. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on soit audacieux et que il peut y avoir sur ces sujets de société un certain nombre de points à faire évoluer.
Parce que c'est sur la défensive parce que les autres évoluaient plus vite que vous.
Non, mais parce que toujours on a toujours l'impression d'être conservateur, acculé, vouloir garder un certain nombre d'acquis. Moi, je crois, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des fondamentaux à la société. Mais aujourd'hui, par exemple sur la question de la fin de vie, on sait très bien que ça concerne beaucoup de Français. Quand vous avez une personne qui est en souffrance permanente, la question doit se poser. Il y a des cas.
Vous êtes favorable pour faire avancer dans le sens des gens qui souhaitent des fins de vie accompagnées.
Je souhaite qu'on ait un débat apaisé. Je pense que, vous savez, on a notre président du Conseil national, Jean Leonetti, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets et qui l'a fait de manière transcourant et de manière apaisée.
Moi, plus loin encore, Leonetti.
Oui, mais ce que je veux simplement, c'est que on soit pas dans la même logique que le débat qu'on a eu sur le mariage pour tous,
qui
n'était pas un débat apaisé parce que François Hollande avait une volonté d'en faire finalement un outil
politique. Vous ne revenez pas sur le mariage pour tous, vous n'avez pas l'intention.
Bien entendu.
D'accord. Juste une question peut-être très rapide pour revenir à l'organigramme. Il était question que vous créiez, vous les Républicains, un shadow cabinet, c'est-à-dire un gouvernement de l'opposition dans l'ombre, si je puis dire, au gouvernement officiel. C'est toujours d'actualité ?
C'est toujours d'actualité, mais ça ne sera pas présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura le bureau politique et la commission d'investiture. Sur le shadow cabinet, il reste à préciser les modalités, il reste à préciser la structure. Ce que nous voulons, en fait, c'est une structure de riposte au gouvernement. Ce que nous voulons, c'est mettre fin à l'armée mexicaine d'une centaine de secrétaires nationaux pour avoir quelque chose autour de 20, 30 femmes et hommes de notre mouvement politique qui puissent incarner la relève et la riposte au gouvernement.
Merci Damien Abad. La prochaine fois, vous reviendrez pour nous dire de quoi vous êtes shadow ministre, justement. Merci d'être venu.
Moi, je suis vice-président des Républicains, c'est très bien comme cela.
Sur France Info, Radio et Télé. Merci à vous, Jeannick Halimi. À la semaine prochaine, samedi prochain, 8h30.